Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
En quoi consiste la bénédiction de Dieu? Nous revenons sur cette question fondamentale. Et dans la série que nous continuons aujourd'hui, nous nous appuierons sur l'enseignement de l'apôtre Paul, et notamment sur le verset suivant.
Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus le Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste qui, toutes sont en Christ.
Vous venez d'écouter le troisième verset du chapitre 1 de l'épître que l'apôtre Paul a écrite à l'église d'Éphèse. Antoine est parmi nous pour nous aider dans notre compréhension de cette question importante. En quoi consiste la bénédiction de Dieu? Bonjour Antoine.
Bonjour Yann et bonjour à tous. Nous nous penchons sur Éphésiens chapitre 1 afin de comprendre plus en détail les bénédictions que Dieu accorde à ceux et à celles qui sont en Christ. Nous avons appris lors d'émissions précédentes que ces bénédictions sont spirituelles et célestes. Elles sont une véritable richesse. Tout chrétien, c'est-à-dire toute personne unie à Christ, les reçoit de Dieu. Il reçoit tout d'abord le pardon du péché. En effet, tout chrétien reçoit ce pardon grâce au sacrifice de Jésus-Christ, et de ce fait, il n'y a plus de condamnation pour quiconque appartient à Christ. C'est un fait acquis. Il en est de même pour la rédemption. Toute personne qui est en Christ a été rachetée et délivrée du péché, de la mort et de Satan. Une fois de plus, ces bénédictions sont acquises par le sacrifice de Christ. De même, toute personne qui est en Christ est un enfant adopté de Dieu le Père. Cette relation privilégiée est accordée à tous ceux et celles qui appartiennent à Jésus-Christ. Cela est pareil pour le don de l'Esprit. Toute personne en Christ reçoit l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas être en Christ sans l'avoir reçu. L'Esprit est reçu par tous lors de la conversion, au moment de la nouvelle naissance, car c'est l'Esprit qui nous fait passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle. C'est l'Esprit qui allume notre foi. C'est l'Esprit qui la fait grandir et nous permet de rester unis à Christ.
Merci pour ce court résumé des émissions précédentes qui nous rappelle toute la richesse de ce que le croyant reçoit en Jésus-Christ. De quoi allons-nous parler aujourd'hui?
Je voudrais m'attarder sur quelques versets dans Éphésiens chapitre 1 que nous n'avons pas encore eu l'occasion de considérer. Ils sont importants et ils vont nous servir pour compléter notre étude sur la bénédiction de Dieu. Je voudrais répondre à la question suivante. Quelle est la place de cette bénédiction dans les grands desseins de Dieu, dans ses projets pour l'individu, pour l'Église et pour l'univers?
Merci. Et par où voulez-vous commencer?
Quelle est la volonté de Dieu pour votre vie? Il s'agit d'une question importante. Et à vrai dire, il s'agit d'une question qui préoccupe beaucoup. Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Quelles études ou formations dois-je suivre? Quel métier pratiquer? Avec qui dois-je me marier? Il est tout à fait normal de se préoccuper de ces questions. Mais que dit la Bible à ce sujet? Certains enseignants répondraient aujourd'hui à cette question de la façon suivante. Dieu veut que vous soyez en bonne santé, que vous soyez prospère et que vous réussissiez dans toutes vos entreprises et vos projets. Est-ce que cela est vrai? Faut-il réduire la bonne nouvelle de Jésus-Christ à des soi-disant promesses de prospérité et de réussite? Faut-il réduire la volonté de Dieu à ses préoccupations terrestres et mondaines?
Y a-t-il des indices dans Éphésiens 1 qui pourraient nous éclairer à ce sujet?
Oui, tout à fait. Écoutons le verset 4.
En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui.
Dieu nous a choisis avant la création du monde. Quel mystère et quelle bénédiction! Mais posons-nous les questions suivantes. Pourquoi Dieu nous a-t-il choisis? Quelle est sa volonté pour nous?
Selon le texte que nous venons de lire, c'est pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui.
C'est exact, Yann. Et d'autres textes vont dans le même sens. Écoutons par exemple la première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 à 7.
Ce que Dieu veut, c'est que vous meniez une vie sainte, que vous vous absteniez de toute immoralité, que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour vivre dans la sainteté et l'honneur, sans se laisser dominer par des passions déréglées, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Qu'ainsi, personne ne cause du tort à son frère dans ce domaine en portant atteinte à ses droits. Dieu, en effet, fait justice de toute faute de ce genre. Nous vous l'avons déjà dit et nous vous en avons averti, car Dieu ne nous a pas appelés à nous adonner à des pratiques dégradantes, mais à vivre d'une manière sainte.
Quelle est donc la volonté de Dieu pour les hommes, selon ce texte?
C'est que nous fassions des progrès vers la sainteté, la sainteté signifiant ici notre caractère moral et spirituel. Il semblerait que dans l'église de Thessalonique, certains convertis avaient encore des problèmes d'ordre sexuel. Or, Paul est très clair à ce propos. Pour faire des progrès dans la sainteté, il faut apprendre à maîtriser ses désirs et ses passions sexuelles et ne pratiquer la sexualité que dans le cadre du mariage. Malheureusement, les temps n'ont pas changé. Même dans l'Église, nous pouvons entendre parler d'abus sexuels, d'immoralité, d'adultère, de pédophilie et de pornographie. Ces problèmes, ces péchés sont trop fréquents et parfois même encouragés. Selon la Bible, la pratique de la sexualité est une bonne chose créée par Dieu. Mais, et il faut le souligner, sa pratique doit se limiter au seul cadre du mariage. Le mariage étant une relation privilégiée de fidélité entre un homme et une femme. En dehors du mariage, la volonté de Dieu est que nous maîtrisions nos désirs et nos passions sexuelles.
La sainteté, c'est donc la pureté et la maîtrise sexuelle.
Effectivement, mais la sainteté, c'est beaucoup plus que cela, car elle embrasse notre vie tout entière. La sainteté, c'est tout aussi bien faire des progrès dans l'intégrité et l'honnêteté, la justice et la droiture. Faire des progrès vers la sainteté, c'est aussi apprendre à maîtriser d'autres passions, telles que les excès de colère ou la convoitise, de même que c'est apprendre à maîtriser ses paroles et ses gestes. Cependant, je voudrais considérer un autre texte qui va nous éclairer sur la volonté de Dieu pour nous, et aussi sur ce que la sainteté signifie d'un point de vue biblique.
Lequel?
Il s'agit de l'épître aux Romains, chapitre 8, versets 28 et 29. Cédons la parole à notre lectrice.
Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils.
Dans ces versets, Paul déclare que tout contribue au bien de ceux qui sont en Christ. Mais comment alors définir ce mot « bien » ? De quoi Paul parle-t-il ? S'agit-il du bien procuré suite à une vie aisée et confortable ? S'agit-il de notre bien-être, résultat de notre réussite professionnelle, sentimentale ou matérielle ? Ou bien s'agit-il d'un tout autre bien ? Et dans ce cas, lequel ?
Ce sont des questions pertinentes. Comment y répondriez-vous ?
Pour moi, la fin du texte nous donne la réponse. Le bien dont il est question est de devenir conforme à l'image de son Fils, c'est-à-dire ressembler de plus en plus à Jésus. Voilà une autre manière de définir la sainteté. Dieu est saint, et puisque Jésus est à la fois divin et humain, sa vie parmi nous a été un exemple de sainteté. C'est pourquoi, si nous sommes appelés à faire des progrès dans la sainteté, nous sommes appelés à ressembler davantage à Jésus dans sa pureté et sa maîtrise de soi, dans sa douceur et sa fidélité, dans sa justice, son intégrité et sa droiture, dans sa compassion, dans sa miséricorde et son amour, et ainsi de suite.
Et je remarque que dans le verset lu de Romains 8, que tout contribue à notre bien. Autrement dit, toutes nos expériences contribuent à nous aider à ressembler à Jésus. Tous les hauts et les bas de notre vie contribuent donc à nous refaçonner et à nous recréer à l'image de Christ.
C'est exact, Yann. Et cela peut changer notre regard sur la souffrance et les épreuves telles que la pauvreté, la maladie, les injustices subies. Vous avez raison de souligner que le mot « tout » inclut les expériences difficiles de la vie. Si nous sommes en Christ, toutes ces expériences peuvent nous aider à mieux lui ressembler. Dieu n'est jamais l'auteur du mal, mais il a le pouvoir de transformer ces mauvaises expériences en changeant le mal en bien. Si nous marchons avec Dieu par la foi, au travers de l'épreuve, Dieu fera de nous de meilleures personnes et nous ferons des progrès vers la sainteté. Jésus est l'exemple par excellence de celui qui a placé sa confiance en Dieu, de celui qui lui a obéi dans l'épreuve, y compris celle de la crucifixion. Pour le moment, nous vivons dans un monde mauvais et malheureux, et dans un tel monde, Dieu nous appelle à prendre de l'exemple de Jésus afin de lui ressembler toujours davantage. Voilà sa volonté pour votre vie et voilà comment il vous bénit en Christ.
Merci Antoine. Comment voulez-vous conclure notre émission?
Avec quelques questions adressées aux auditeurs. Est-ce que les orientations prises dans votre vie s'alignent avec les desseins de Dieu, avec sa volonté telle qu'elle est dévoilée dans les Écritures? Quels sont les désirs de votre cœur? Dans quel but travaillez-vous? Pour devenir riche et prospère? Pour avoir une bonne réputation? Pour exercer un pouvoir sur les gens? Être populaire et admiré? Ou par contre, le désir de votre cœur est-il de faire la volonté de Dieu et de progresser vers la sainteté? Le désir de votre cœur est-il de ressembler davantage à Jésus, d'avoir un caractère mature reflétant ses qualités? La volonté de Dieu pour votre vie, c'est que vous soyez saint comme lui est saint. Est-ce que vous coopérez avec lui pour faire des progrès dans la sainteté?
Merci Antoine pour ces réflexions importantes. Antoine sera de retour la prochaine fois pour conclure cette série sur la bénédiction selon l'apôtre Paul. En attendant, je vous dis au revoir et à bientôt.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.